Les conversations de Réor. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ces conversations de Réor. Le confinement actuel va passer par une phase de déconfinement bientôt. Mais ce confinement va également être une expérience que nous risquons de vivre de nouveau. Il nous invite, nous semble-t-il, à nous poser la question de ce que nous apprend sur l'esprit des types cette vie en groupe, en petit ou grand comité, dans des espaces assez réduits et pour un temps indéterminé. Nous avons avec nous, pour en parler dans ces conversations de Réor, Marc de Briançon. Bonjour Marc.
Bonjour Gabriel.
Marc de Briançon, vous êtes vice-amiral d'escadre et vous avez l'habitude de vivre dans des endroits confinés puisque vous avez eu la chance de vivre sur des bateaux. Qu'est-ce que c'est que la vie sur un bateau ?
Bah oui, un bateau, c'est d'abord une coque, plus ou moins grosse, avec des installations, des équipements qui en rapport avec l'emploi du bateau, mais c'est surtout un équipage. Un équipage, ce sont des hommes et des femmes qui acceptent une vie un peu particulière, de vivre 24 heures sur 24 ensemble, dans des mêmes lieux de travail, de repos, de loisirs, et sans pouvoir s'échapper ni s'isoler.
Et combien de temps un marin reste confiné, si je puis dire ?
Ça peut être très variable. Ça peut être très variable. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois.
Oui.
Et effectivement, il y a cette notion d'incertitude sur la durée. C'est pas combien la mission peut durer.
Ah oui.
Et c'est pas facile à gérer d'ailleurs. Donc, ça demande une organisation un peu particulière. Ça demande surtout une solidarité entre les marins.
Oui.
Qui se serre les coudes face à la mer, qui peut être mauvaise, et face à l'isolement, comme on dit, à l'éloignement.
Alors, donc, pour faire face à l'isolement, face à l'éloignement, j'imagine que la vie sur un bateau doit être structurée de façon claire, notamment aussi pour faire face à la durée, n'est-ce pas ?
Oui, il faut une organisation. Alors, puisque c'est un bateau qui marche en permanence, qui fonctionne en permanence, il faut des quarts. Chaque poste de quart sont occupés par 3 ou 4 personnes en fonction de l'activité, on va dire. Et donc, chaque marin fait, vous voyez, entre 6 à 8 heures de quart par jour. Il se relève, mais il ne prend pas le quart à la même heure, justement, pour éviter une certaine monotonie. Et voilà, en tout cas, ces quarts, ça rythme la vie du bateau. Il y a quelque chose d'autre qui rythme la vie du bateau, c'est un petit détail, mais on met la lumière rouge le soir pour rappeler aux marins qu'il y a une jour et une nuit. Parce qu'effectivement, certaines parties du bateau sont complètement hors de vue de la mer, hors de vue du jour, pardon. Et donc, il faut bien rythmer, encore une fois, la journée. Il y a d'autres rythmes qui sont imposés, si je puis dire. C'est des repas, bien entendu, qui sont à heure fixe, qu'on connaît bien. Et ça constitue un événement dans la journée, un espèce de rituel où tous les marins sont heureux de se retrouver à cette occasion. Et d'ailleurs, sur les bateaux, d'une façon générale, on soigne les repas pour donner du... un petit augmenté à cette convivialité, à ce côté agréable de se retrouver à heure fixe.
Et oui, c'est assez étonnant parce que les médias, notamment au début du confinement, relayaient que les Français s'étaient particulièrement recentrés eux aussi sur la cuisine, sur la préparation des repas. Vous disiez également que les chefs cuisiniers à bord des bateaux étaient sensibilisés à cela.
Oui. On a même dans la Marine nationale une école de cuisiniers qui est assez réputée. Et les cuisiniers, les marins cuisiniers, si je puis dire, comme tous les autres marins, font preuve d'une certaine autonomie parce qu'il faut qu'il se débrouille tout seul. S'il n'a pas prévu suffisamment d'ingrédients pour faire sa cuisine, ça se passe mal pour lui. Le moral est atteint à bord et surtout, ses petits camarades lui disent assez, assez clairement, mais pas très bon aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe voilà.
Oui, alors le chef cuisinier a un rôle très, très important hein, sur un bateau.
Il fait complètement partie de l'équipage et il a son rôle, comme chacun à bord, chacun a son rôle. Et c'est ça, et c'est ça qui est très particulier de la vie en mer, c'est que chacun doit pouvoir compter sur l'autre. Chacun est unique et chacun a besoin de l'autre, a besoin du talent de l'autre, du talent du cuisinier, comme le talent du navigateur, celui qui tient la barre, comme celui qui fait la navigation. Et donc, c'est ça qui est très particulier à bord d'un... Ce qui fait cette solidarité des marins, qui, chacun, tient, a besoin de l'autre, voilà, a besoin du talent de l'autre.
Est-ce que c'est ça, justement, pour vous, ce qui habite principalement ce que vous appelez l'esprit d'équipage ?
Voilà, oui, c'est un point très fort de l'esprit d'équipage. L'attention que chacun apporte à l'autre, parce que, ne serait-ce que parce qu'il a besoin qu'il soit en forme, qu'il fasse son travail, qu'il occupe son poste de quart, et c'est une équipe. Et qui ne fonctionne vraiment bien que si chacun a trouvé sa place. On parle quelquefois dans des émissions du principe du maillon faible. Ben, l'équipage est à l'opposé. Il n'y a pas de maillon faible. Toute la chaîne, la solidité de la chaîne tient à la solidité de chaque maillon. Voilà.
Oui, parce que chacun sait que sa vie dépend de l'autre finalement.
Exactement. La vie dépend de l'autre. Des réactions de l'autre, quelqu'un qui fait mal son travail, et ben il met en danger l'équipage, il met en danger la conduite du bateau. Vous savez, sur un bateau, on dit que tout le monde, du commandant au matelot, tout le monde est à la même enseigne, tout le monde est sur la même galère. Et s'il y a un incendie, si le bateau coule par un incendie ou un autre sinistre, s'il touche le fond par exemple, bah, tout le monde coule. Si on prend une torpille, tout le monde coule, du commandant au matelot. Et du coup, et de même tout simplement, quand il fait mauvais, tout le monde est malade à bord. Alors, ça dépend de la constitution de chacun, mais...
Et oui, tout le monde peut être malade parce qu'on oublie que dans ce bateau, eh bien, il y a des règles, il y a un certain nombre d'éléments qui structurent le temps, mais il y a aussi cet élément naturel, sauvage et imprévisible, inattendu, qu'est la mer, n'est-ce pas ?
Exactement, la mer est un milieu naturel qui peut être exigeant, qui peut être... difficile, dur, et effectivement, ça, même si on arrive à prévoir la météo à quelques jours près, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une tempête, d'un changement de météo, et là, eh bien, c'est la nature qui commande. Le bateau, aussi gros soit-il, eh bien, ce n'est pas lui qui commande, c'est la nature qui commande, et ça développe une autre qualité chez les marins, c'est cette sorte d'humilité face à l'incertitude dont vous parlez, face aux éléments, et pas maître de tout.
Et lorsqu'il fait mauvais, vous m'aviez raconté qu'il se passe quelque chose de particulier sur le pont avec le commandant.
Je suis toujours amusé de constater que quand il fait mauvais, quand le commandant est à la passerelle, quand il fait vraiment mauvais, pour voir un peu ce qui se passe, pour sentir le bateau, à ce moment-là, très souvent, monte à la passerelle, je lui dis monte parce que l'aide est en haut, à la passerelle des personnes qu'on voit rarement quelquefois à la passerelle parce qu'ils travaillent dans la machine et on ne trouve pas le besoin. Mais là, quand il fait mauvais, tout le monde vient voir la tête du commandant.
Le commandant qu'on appelle le Pacha, et on vient le voir pour voir si...
S'il n'est pas serein, s'il peut être malade, mais s'il n'est pas serein, s'il est inquiet, on sent une certaine appréhension. Eh bien, c'est pas très bon pour le bateau. Cette inquiétude, cette angoisse, je ne dirais pas jusque-là, mais cette inquiétude se répand dans le bateau et c'est pas bon du tout.
Alors, ce pacha, ce commandant, c'est comme le leader dans une entreprise. Il vient volontairement sur la passerelle lorsque la mer est totalement déchaînée et les marins viennent voir sa tête, voir la tête qu'il a dans ce moment périlleux. Et du coup, comment il doit réagir, lui, ce pacha? Est-ce qu'il doit être transparent par rapport à ses propres craintes et ses propres doutes? Ou est-ce qu'il doit donner le change et, malgré le désespoir qui pointe peut-être, donner le change, tout va bien quand même? Qu'est-ce que les marins viennent chercher finalement?
Et ça aussi, c'est une particularité de la vie en mer. On ne triche pas. On ne triche pas, et en mer, c'est Éric Tabarly qui disait on sait ou on ne sait pas. Bon, c'est une formule un peu lapidaire, mais qui veut bien dire que on ne triche pas longtemps, en tout cas, parce qu'on est confronté aux éléments, justement.
D'accord.
Et que quand on est malade, par exemple, ça se voit sur son visage. Alors il faut l'accepter. Mmh. Il faut, je pense, être naturel. Voilà. Naturel, bien avec soi-même. Ne pas changer de comportement.
Donc les marins, lorsqu'ils viennent sur la passerelle pour voir le commandant, ils viennent réellement chercher de l'information sur ce qui se passe, sur la situation, sur le bâtiment.
Chercher, voir, exactement.
Alors, on voit ici comment les marins s'organisent pour rester confinés dans leur bateau. Quels enseignements nous pourrions tirer pour nous, nos propres confinements? Je retiens donc ce que vous disiez, Marc, sur les rituels. C'est vrai que quand on manque d'espace, il faut absolument que l'espace soit compensé par une organisation du temps, donc avec des repas, avec des temps où l'on travaille, où l'on dort, le jour, la nuit, tous ces repères qui vraiment matérialisent le temps qui passe. Et puis, en même temps, vous me disiez par ailleurs qu'il faut à la fois voir ces rituels et en même temps, il ne fallait pas être dans des routines. Il ne fallait pas garder un aspect routinier par rapport à ces rituels. Il fallait renouveler et recréer des éléments.
Oui, parce que sur un bateau, il faut tenir dans la durée, donc on disait une mission ça peut durer longtemps, donc peut s'installer une certaine routine, mais en même temps il faut garder une certaine vigilance pour être prêt à réagir à l'imprévu, comme un incendie, un sinistre, enfin une voie d'eau ou un bateau. Vous savez qu'un bateau a une mission de service public, s'il constate une infraction, si je puis dire, en mer, c'est-à-dire qu'un bateau suspect qui fait un trafic comme un autre, enfin un trafic l'un ou l'autre, il y a plusieurs possibilités de trafic, il doit réagir, le bateau, il doit réagir vite. Et donc l'équipage doit garder une certaine vigilance. Et toute la difficulté pour le commandant, pour l'équipe, l'ensemble de l'équipage, c'est de ne pas tomber dans une certaine routine, mais quand même respecter un certain nombre de rituels pour pouvoir durer, pour ne pas être sur la brèche tout le temps, mais à la fois être capable de réagir très vite.
Et cette vigilance, alors, pour nous sur Terre, nous dans nos appartements, nous dans notre travail quotidien, comment nous pouvons l'appliquer, cette vigilance, et surtout sur quel sujet, sur quels objets, sur quoi nous allons pouvoir exercer cette vigilance, selon vous?
Prendre du temps pour soi, prendre du recul. Lutter, c'est une formule un peu, mais lutter contre la tyrannie de l'instantané. Peut-être se retrouver soi-même pour essayer de mieux se connaître, s'accepter comme on est, voilà, et afin de retrouver un équilibre. Je crois beaucoup à cette notion d'équilibre qui est le secret du bonheur, en fait.
Ce que vous entendez par équilibre, c'est cette idée de retrouver son propre rythme intérieur, c'est ça?
Son propre rythme, c'est ça. Et ne pas se faire imposer par un rythme par l'extérieur, par le court terme, l'instantané, et donc qui permet d'être aligné sur sa propre personnalité et d'être du coup de prendre les bonnes décisions. D'être plus à l'écoute, peut-être, d'être de soi et de l'autre. Et peut-être ainsi retrouver du sens dans ce que l'on fait dans sa vie, de façon générale.
Alors, un équilibre entre deux temporalités, celle des autres et la sienne propre, est-ce que l'équilibre peut être aussi entre deux autres éléments?
Moi, j'aime bien cette notion d'équilibre entre exigence et bienveillance.
D'accord.
Exigence, quand le milieu est exigeant, quand le fait de rester confiné est exigeant. Là, c'est sur un bateau soumis à la mer, à la mauvaise mer, est exigeant. Mais quand on est avec d'autres personnes, bien entendu, être bienveillant avec ces personnes, et d'ailleurs bienveillant avec soi-même.
Oui.
Être bienveillant pour soi et pour le collectif.
Qu'est-ce que c'est être bienveillant pour soi-même concrètement ?
Eh bien, c'est peut-être s'écouter, oui. Écouter son rythme intérieur, prendre son temps, prendre du recul. Voilà, prendre du recul, encore une fois, pour ne pas se laisser tyranniser par le mmh. court terme.
Marc de Briançon, vous êtes vice-amiral d'escadre. Quel conseil vous pourriez donner aux managers, aux leaders, aux pachas d'entreprise qui se retrouvent sans doute décontenancés de voir leur équipage éparpillé aujourd'hui dans le cadre du confinement en télétravail? Quel conseil de marin vous pourriez leur donner pour diriger leurs équipes à distance?
Je pense que laisser une certaine autonomie, liberté d'action, tout en donnant le cadre, tout en rappelant la vision, en donnant du sens, dans ces trois acceptions, vous savez, la direction, la sensation, la signification aussi. Là, je parle pour le chef d'équipe, le manager, si je puis dire. Mmh. Cette vision qui est d'autant plus importante quand une certaine autonomie est laissée, et pour moi, était souhaitable. Et c'est cette vision qui va donner de l'envie, qui va motiver, qui va même générer, j'irais jusqu'à dire, de l'amour. Pour le travail que l'on fait, pour soi et pour, du coup, pour le collectif. Voilà.
Merci Marc de Briançon pour cette superbe première conversation de Réor.
Merci Gabriel.
À très bientôt.
Merci Gabriel. Encore.